Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Vous pensez ne jamais nous réentendre ?
Vous pensez que le théâtre succomberait ?
Vous pensez que le reconfinement aurait raison de Tonnerre de Brecht ?
Vous nous connaissez mal.
Bonjour à toutes et à tous.
On est de retour pour une heure d'émission théâtrale et aujourd'hui, on a plein de choses à vous dire. Salut Léa.
Salut Martin. Oui, aujourd'hui, le programme est chargé. Martin, tu as rencontré Madeleine Warne et Jean-François Auguste pour Opérette, qui s'est joué en octobre dernier au TNB.
J'ai aussi pu rencontrer Zoé Manteau autour de sa création Carré dans le cadre des Nocturnes de l'Arène Théâtre. Nous inaugurons avec Zoé une nouvelle rubrique dans Tonnerre de Brecht consacrée au processus de création.
Mais avant ça, quelques actus, parce que...
on connaît la chanson, le confinement ferme les théâtres, mais on peut retrouver leur programmation pour certains sur internet. C'est le cas de la Comédie Française qui reprend ses lives, la comédie continue tous les soirs à 19h, une lecture de l'œuvre de Marcel Proust.
Le Centre National de la Danse nous fait un beau cadeau cette fois, en nous proposant des cours de danse, l'occasion d'expérimenter la danse classique par exemple pour celles et ceux qui n'ont jamais osé franchir le pas.
Et on commence tout de suite avec une interview de Mohamed El-Khatib. Il nous présentait la dispute pour cette rentrée au TNB. Un spectacle qui suivait le principe de ses précédents, travailler avec des amateurs sur un sujet dont ils avaient envie de parler. Ici, les enfants ont voulu parler du divorce de leurs parents. On écoute tout de suite.
Mohamed El-Khatib, vous êtes metteur en scène pour la compagnie Zirlib, qui existe depuis 2008. Vous êtes un habitué du TNB puisque vous y avez déjà présenté des pièces avant la dispute, comme C'est la vie, il y a 2 ans. Vous faites un travail de la scène particulier puisque vous dirigez des acteurs amateurs. Alors qu'est-ce que ça apporte selon vous de travailler avec des personnes qui ne sont pas issues du monde théâtral ? Est-ce que ça change aussi vos méthodes dans la direction de l'acteur ?
Le sentiment que j'ai... en tout cas, c'est que ça me procure beaucoup de liberté. C'est-à-dire que je ne suis pas soumis aux contraintes qu'imposent les relations traditionnelles d'échange entre un metteur en scène et des acteurs. Je ne suis pas soumis au poids des formations professionnelles des uns et des autres, et donc ça donne une certaine liberté. Et ça me permet d'essayer de rapprocher, pour le dire un peu vite, l'art et la vie. C'est comme si mon travail consistait à faire en sorte que ce soit le plus poreux possible, qu'il y ait une circulation maximale entre des projets artistiques et la vie quotidienne. C'est ce qui m'intéresse. Et du coup, de travailler avec des non-professionnels, ça me paraît facilitant dans le fait d'abolir certaines frontières. Donc ça m'arrive de temps en temps, il m'arrive de travailler avec des professionnels. Mais dans les spectacles que j'essaie de mettre en place... c'est important pour moi qu'on ne soit pas trop figé ou pas trop soumis aux contraintes marchandes du monde théâtral. Et c'est aussi sur le plan politique, de façon un peu plus démocratique, de faire entendre des voix et des corps qu'on a moins l'habitude de voir, qui répondent moins aux injonctions de la pratique théâtrale professionnelle.
Alors pourquoi est-ce que vous faites ce choix ? Est-ce que vous choisissez aussi vos pièces en fonction des gens que vous rencontrez ? Est-ce que vous réfléchissez au sujet avant et ensuite vous faites, je sais pas, des auditions, des rencontres pour sélectionner vos comédiens ?
Je fais rarement des auditions, des castings. Et quand ça m'arrive d'en faire, je les fais toujours après coup. Et j'en fais un objet même du spectacle, de la proposition. En fait, j'ai pas une idée, et puis qu'après je cherche à déployer, à mettre en œuvre. C'est vraiment le hasard des rencontres qui fait naître les projets. Et quand il se passe quelque chose, quand je rencontre quelqu'un, quelle qu'elle soit, cette personne, quelle qu'elle fasse, et après, quand il se passe quelque chose entre nous, j'essaie de partager ça avec le plus grand nombre. Et c'est peut-être là qu'intervient le théâtre, c'est dans la façon de réfléchir ensemble à comment on peut partager ça avec un public, comment on peut partager ça avec des gens, comment on s'adresse aux gens, qu'est-ce qu'on leur raconte, comment on le raconte. Mais voilà, c'est plutôt, les choses naissent plutôt accidentellement, et c'est pour ça que les projets que je fais sont très différents les uns des autres, parce qu'ils ont chacun leur histoire et leurs propres règles du jeu.
Et justement, vous travaillez énormément autour du témoignage. Alors comment est-ce que vous arrivez à gérer la fiction, le témoignage, la réalité, parce que finalement les personnes qui sont présentes sur scène sont donc des comédiens par leur présence sur scène, mais finalement racontent leur histoire.
Disons que je ne me pose pas toutes ces questions. C'est-à-dire que je n'ai pas une idée claire de ce que serait la réalité, de ce que serait la fiction, à partir de quel moment c'est plus de la réalité ou c'est un point de vue. Enfin, je considère que faire du théâtre ou du cinéma ou quoi que ce soit, c'est déjà c'est l'énonciation ou la mise en forme d'un point de vue. Et ce point de vue, il n'y a pas pour moi un point de vue qui serait celui de la réalité et un point de vue qui serait de la fiction. C'est-à-dire, dès lors que vous posez votre cadre quelque part, dès lors que vous posez une caméra quelque part ou votre stylo, vous décidez d'un champ, donc il y a un hors-champ, c'est déjà la construction d'un point de vue. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la nature de ce point de vue et son rapport avec la vérité. Une vérité générale qui dépasse le cadre de réalité, fiction, documentaire, pas documentaire. Ça, c'est des catégories qui me sont un peu étrangères. Du coup, je travaille avec des gens que je rencontre, qui la plupart du temps, effectivement, partagent leur vie ou une passion, quelque chose qui les anime dans leur vie. Et après, ensemble, on construit un objet. Et cet objet, il puise autant dans le documentaire ou la réalité documentaire. C'est toujours un principe de coécriture. Et donc, une écriture, ça implique de toute façon quelque chose de l'ordre de la fiction, puisqu'on revisite et après, on peut jouer de ça. Mais j'aime pas l'idée de faire comme si la réalité serait quelque chose comme ça, de donner une espèce de vérité ontologique un peu supérieure. Il y aurait la réalité avec des contours extrêmement nets qui fait qu'on soit si sûr de nous. Et du coup, c'est assez naturellement qu'il y a des allers-retours entre l'un et l'autre. Et que ce qui m'intéresse plutôt, c'est pas tant est-ce que c'est vrai ou pas, c'est plutôt quel rapport à la vérité ça a. Que ce soit une vérité sociologique, anthropologique, je veux dire au-delà des faits, au-delà de l'aspect factuel, qui est vrai la plupart du temps dans mes pièces, mais c'est presque anecdotique. C'est plutôt qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on a à en dire et comment on le dit, quoi, ce qui m'intéresse.
Sur le site internet de la compagnie Zirlib, vous présentez vos spectacles comme des performances. Par exemple, je pense à Paysan, qui est en cours de création peut-être, ou en tout cas qui est prévu pour cette année, que vous présentez comme une performance agricole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre vision de la performance ?
En fait, c'est-à-dire qu'on pourrait entendre performance dans deux sens. En tout cas, il y a ce qui relève de la performance qui n'a lieu qu'une fois, qui est éphémère. Et voilà, ça a lieu une fois, c'est un rendez-vous, une convocation exceptionnelle qui ne se reproduit pas. Et il y a la performance au sens de prise de risque et dépassement de soi. Et c'est le cas, par exemple, quand un paysan accepte de venir se livrer sur scène, de venir du dehors dans le dedans, dans un espace qui n'est pas du tout le sien, dont il ne maîtrise pas les codes, etc. Ce que je considère, moi, être une performance de ce point de vue-là. Ou quand une femme de ménage vient raconter sa vie avec une danseuse. Et puis, il y a mon idéal qui est que j'aimerais avoir de moins en moins de textes et que chaque rendez-vous soit vraiment exceptionnel et unique. Et du coup, avoir vaguement une trame comme ça et que les spectacles s'inventent et se redéfinissent chaque soir. Alors ça, c'est la forme de théâtre qui m'intéresse. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Alain Cavalier, par exemple, dans une proposition qui s'appelait Conversation, où il n'y avait pas de texte et où chaque soir, on remobiliser notre histoire, mais de façon différente, etc. Et ce qui d'ailleurs supporte mal la répétition. Et c'est ce qui fait que cette pièce se jouait que les 15-16 du mois. On ne pouvait le faire que deux fois par mois pour maintenir une forme de fraîcheur et pas entrer dans ce qui est un travail d'acteur, c'est-à-dire celui de la répétition, de reprendre à chaque fois. Donc la performance, pour moi, elle inclut un déplacement. Un déplacement et une prise de risque. Et la plupart du temps, les gens que j'invite à venir sur scène, c'est un vrai déplacement physique, symbolique. C'est une vraie prise de risque pour eux. En cela, on pourrait dire performance, mais en même temps, je ne suis pas particulièrement attaché à ça parce que ça reste du théâtre. Et moi, je ne qualifie pas mon travail, en fait. Certains parlent de théâtre documentaire, de théâtre de témoignage, de théâtre. Bon, peu importe, c'est du théâtre, quoi. Et je ne ressens pas ni le besoin de le qualifier. Et c'est des termes dont je parle jamais, que j'évoque jamais dans le travail avec les gens. Je parle de rencontres, j'anime ces rencontres et puis après, on les partage avec le plus grand nombre. Ce qui pourrait être une définition du théâtre, celle de faire entendre des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et de confronter les gens à un principe de réalité.
On va parler un peu plus de scénographie. Sur C'est la vie, vous aviez une scénographie très épurée. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix sur la dispute de proposer quelque chose de plus illustratif aussi, mais aussi de plus présent en termes de scénographie ?
Je ne sais pas si c'est plus illustratif, parce que ce qui aurait été illustratif, de mon point de vue, c'est de reconstituer une chambre d'enfant, qui était l'idée initiale d'ailleurs, c'était une mauvaise idée, et qu'on voulait quelque chose d'un peu plus abstrait, d'avoir plutôt un paysage enfantin, qui puissent se construire, se déconstruire selon le besoin et le désir des enfants. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de cette scénographie, mais c'est pareil, il n'y a pas de scénographie, a priori, on ne définit pas un espace, plutôt d'espace de jeu. L'espace arrive plutôt par accident, il se construit en fonction des gens qui sont là et en fonction de la nature de la parole qu'on a envie de partager. Ce qui fait que parfois, on pense plutôt à la relation au spectateur, en disant là, on a besoin d'un écrin pour une parole fragile, spécifique, donc on va surtout travailler la proximité. Et l'espace, d'ailleurs, implique autant pour moi l'espace de jeu que l'espace de réception. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les trois quarts des projets que j'ai faits, c'est nous qui proposons l'assise pour les spectateurs. C'est-à-dire que le spectateur fait partie du dispositif et qu'il peut se retrouver sur des tabourets, sur des banquettes de façon circulaire extrêmement proche, etc. Et qu'on évite de plus en plus le face-à-face frontal un peu traditionnel. Voilà. Ça arrive de temps en temps, mais on essaye d'éviter ça. Et c'est plutôt penser à un espace de la relation entre l'acteur et puis le spectateur.
Alors, on a parlé de la direction d'acteur avec des comédiens amateurs. Est-ce qu'on peut parler de celle avec des enfants ? Parce que du coup, ça doit être un travail particulier à mener au niveau de la manière dont ils s'expriment et dont ils se confient.
Je ne sais pas s'il y a une grosse différence. C'est que les enfants ne sont pas trop formatés. Donc, il y a une curiosité naturelle. Donc, ce n'est pas compliqué d'accompagner des enfants. Peut-être ce qui est difficile, c'est de faire perdre certains réflexes qui sont liés, à mon avis, au fait de la façon scolaire, très scolaire qu'on a de réciter des poèmes à l'école. Etc. Très vite, essayer de retrouver quelque chose de plus spontané et naturel chez eux, plutôt que l'espèce de scansion dont on pense que c'est comme ça qu'il faudrait dire de la poésie. Mais en dehors de ce travail-là, de les mobiliser, de les sensibiliser au fait d'adresser les choses vraiment à quelqu'un, de vraiment parler, plutôt que de réciter... Voilà, j'ai pas senti une grande différence, quoi. Et au contraire, avec les enfants, il y a une grande plasticité. Ça, ils sont très réactifs. Tout peut changer du jour au lendemain. C'est pas un problème pour eux. Il y a une grande forme d'adaptabilité, de réactivité, en tout cas, dans les propositions artistiques. Donc, c'est plutôt agréable de travailler avec des enfants.
Par rapport à l'écriture sur la dispute, du coup, vous écrivez pas le texte au préalable. Vous l'écrivez avec eux. À quel point est-ce que... vous écrivez le texte quand même? Comment est-ce que vous écrivez le texte, en fait, concrètement? À quel point vous leur laissez de la place ou non sur ce qu'ils disent? Et quand ils le disent, comment ils le disent?
En fait, j'écris pas littéralement, quoi. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est leur témoignage. C'est leurs histoires. Je fais plutôt un travail d'agencement, d'architecture. C'est pas un travail d'écriture en tant que tel. Je pars de leurs histoires. Et puis après, ils me racontent ces histoires. Je dis, maintenant, on va les raconter sur scène. Et parfois, ça implique certaines modifications dans l'adresse pour qu'on comprenne bien, pour des questions de rythme, etc. J'essaie d'intervenir le moins possible pour qu'ils puissent prendre appui sur certains endroits, etc., pour que ce soit lisible, clair. C'est pas plus que ça. Après, je leur dis, mais vous êtes 8 sur scène, hein, ou 7 ou 8, etc. Mais il y a des témoignages que j'aimerais entendre, qui ont été racontés par d'autres enfants. Donc voilà les histoires qui m'ont intéressé. Qui veut les prendre en charge ? Ah, moi, je veux bien raconter cette histoire. Et ça se passe comme ça. Donc, ils font leur petit marché là-dedans. Moi, je ne prévois pas de leur dire au début, j'écris pas. Le metteur en scène m'a dit de dire ça. À un moment donné, un enfant dit ça dans le spectacle. Mais c'est parce qu'on est confronté à un problème, en fait. À un moment donné, un enfant, pendant les répétitions, dit moi, si mon père est dans la salle, je voudrais pas qu'il entende ça. Et moi, je dis, ah, mais ça, c'est important ce que tu dis. Alors, comment on pourrait faire? Quelle solution on peut trouver? Et ensemble, on a trouvé cette solution de dire, mais si. Je dis à mon père que c'est le metteur en scène qui m'a dit de dire ça, alors je suis protégé. Et je suis tranquille, et je peux dire, moi, c'est pas ce que je pense, c'est le metteur. Même si c'est la vérité. Et le fait de dire, de donner cette règle du jeu, c'est le metteur en scène qui m'a dit de dire ça, ça veut dire que potentiellement, tout est faux, que potentiellement, c'est le metteur en scène qui m'a dit de tout dire. Et donc, les enfants sont protégés, et c'est eux qui décident de livrer ou pas la vérité. C'est eux qui décident de dire, ça c'est vrai ou ça c'est faux, chacun à son endroit en fonction de ce qu'il a envie de partager ou pas. C'est plutôt comme ça que les choses se sont tissées. Et puis après, il y a une liste de questions. Il y a plus de 100 questions que les enfants ont voulu poser aux adultes. Et parfois, j'ai reformulé certaines questions. Et parfois pas, parce que c'était des questions, clairement, que je trouvais que c'était des questions d'adultes, en fait. Ou qui répétaient des questions d'adultes qu'eux avaient entendues. Des fois, j'étais étonné d'entendre ça dans la bouche d'enfants. Et j'aime bien que ça se mélange, qu'on ait des paroles vraiment totalement authentiques d'enfants, des fois des paroles d'adultes, et qu'on ne sache plus trop.
Alors, une dernière petite question autour d'un projet prévu pour 2024, Léviathan. Donc vous parliez tout à l'heure de la place du spectateur qui commence à être de plus en plus, enfin en tout cas de plus en plus à faire partie du cadre, et là avec Léviathan ce sera complètement le cas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, peut-être parler un peu de la dimension immersive qui commence à faire partie de vos projets?
Léviathan c'est loin, c'est 2024, c'est très loin.
J'en ai entendu parler déjà il y a 2 ans.
Parce que c'est un projet qui est très lourd, c'est un bateau, c'est un vraquier qui est dans le port de Sète, qui est coincé dans le port de Sète, qui fait 80 mètres de long, 15 mètres de large, et qui a été abandonné. Et les marins ont été en grève pendant plus de 2 ans dans ce bateau, parce qu'ils n'ont pas été payés. Et quand vous essayez de remonter à la source de ce problème social et économique, c'est que vous cherchez le propriétaire du bateau. Et là, c'est le casse-tête juridique commence, puisque c'était un bateau turc, mais sous pavillon chypriote. Et là, c'est un no man's land total, c'est-à-dire que c'est vraiment la mondialisation heureuse dans ce qu'elle a de pire, c'est-à-dire les pires conditions sociales qui font que le monde, une partie du monde de la mer, est totalement dérégulé, violent, avec des marins sous-payés, etc., sans qu'on puisse retrouver les responsables. Et l'idée, c'était de retrouver ces marins qui ont été en grève pendant 2 ans. Mais il y a des Égyptiens, des Polonais, des Syriens qui faisaient partie de cet équipage. Des gens qui étaient payés une misère, c'était totalement exploité, et en même temps qui participaient de la mondialisation, qui passaient d'un port à l'autre, etc. Et l'idée, c'était de recréer un spectacle dans ce bateau. Dans ce bateau, et de le jouer dans les ports, de le créer à Sète, et puis après de jouer dans les différents ports en France. Et c'est un projet très complexe à monter, très complexe pour tout un tas de raisons administratives, financières, etc. Mais j'espère qu'on va y arriver.
Et du coup, juste donc un dernier mot sur peut-être la dimension immersive. Pourquoi le faire justement dans ce bateau et pourquoi pas simplement, je dirais entre guillemets, les faire intervenir sur scène? Pourquoi passer un cap supplémentaire au niveau de l'espace?
De plus en plus, je préfère de recréer les choses en situation, enfin, de se remettre en situation. On peut vous parler de l'enfermement dans un bateau, mais en fait, je crois que c'est beaucoup plus efficace si vous rentrez dans une chambre à coucher dans un bateau, enfin si vous rentrez dans le dortoir, si vous rentrez dans les cuisines du bateau, vous ressentez l'oppression qui peut être ressentie, enfin, qui a une expérience physique qui n'est pas la même, qui ne peut pas être égalable, même sur un plateau, on peut vous donner à sentir des sensations, mais ça ne vaut pas le déplacement physique et d'impliquer son propre corps en tant que spectateur, d'aller dans la cale d'un bateau, c'est une autre expérience et du coup ça crée une autre écoute, un autre rapport aux gens qui sont là, quoi. Et je trouve bien aussi de faire se déplacer les gens dans les deux sens, à la fois des gens de l'extérieur viennent dans les théâtres, mais que les gens du théâtre aussi aillent vers l'extérieur, quoi, et qu'on ait ces deux expériences possibles, sortir le théâtre des murs, quoi.
Merci beaucoup Mohamed El-Khatib.
Merci à toi Léa et Mohamed El-Khatib pour cet entretien. Nous allons continuer en musique avec Yann Tiersen et son morceau La Dispute.
C'était La Dispute de Yann Tiersen, encore une belle découverte musicale et toujours très pertinente de Martin, comme à chaque fois. Et maintenant, on te retrouve aux côtés de Madeleine Loirne et de Jean-François Auguste pour leur spectacle Opérette.
Madeleine Loirne, vous avez créé Catalyse en 1984 au sein du Centre d'aide pour le travail de Morlaix. C'est une troupe qui est devenue permanente et professionnelle et vous avez monté de nombreux spectacles avec elle. Les créations sont pour vous des aventures collectives. On le remarque aujourd'hui avec Opérette. Vous n'êtes pas toute seule pour la mise en scène. À vos côtés se trouve Jean-François Auguste, qui assure également la scénographie du spectacle. En plus des 6 comédiens de Catalyse, on retrouve les 20 élèves de l'école du TNB. Quand le TNB vous a contacté afin de vous associer au nouveau projet pédagogique de l'école, quelle a été votre réaction ?
Moi, j'ai toujours eu envie d'intervenir. Enfin, je suis déjà passé dans différentes promotions, on a l'occasion d'avoir des contacts, mais le fait de pouvoir vraiment développer quelque chose avec les élèves, c'était vraiment un souhait de longue date. Et en fait, Arthur a proposé qu'on y vienne avec les acteurs de Catalyse. Et voilà, c'est tout de suite sauté sur l'occasion parce que c'était vraiment une chance formidable et en plus quelque chose de tout à fait inédit. Je pense que c'est la première école nationale en France qui associe comme ça des acteurs handicapés mentaux qui ont un parcours professionnel qui existe déjà avec des jeunes acteurs voilà, en devenir. Oui.
Est-ce que Opérette s'est imposée d'elle-même quand vous avez pensé à d'autres pièces dans le contexte de la formation ?
On a beaucoup lu avec Jean-François de textes parce qu'il fallait trouver une pièce où on puisse développer suffisamment de personnages pour que chacun y trouve sa place. Et puis l'enjeu de la pièce, c'était aussi de restituer quelque chose de la rencontre particulière, du chemin qu'on avait fait ensemble. On avait même pensé au départ peut-être faire une commande d'un texte. On avait pensé aussi peut-être travailler nous-mêmes sur des propositions d'improvisation, etc. Et en fait, Opérette rassemblait quelque chose qui nous avait tout de suite plu dans cette nouvelle promotion de l'école. C'était la qualité des élèves qui étaient très musiciens, très chanteurs. On s'était dit que vraiment, dans les précédents travaux, on avait vu ça. On s'était dit que ça, ça vaut vraiment le coup. Et Opérette proposait à la fois un nombre de personnages assez impressionnants et surtout un rapport à la réalité qui correspondait bien à l'extravagance de ce que cette rencontre pouvait avoir d'intéressant. Gombrowicz, il dépasse les bornes toujours. Et comme nous, avec Catalyse, on est un peu hors limite, on dira, c'était intéressant du coup d'associer les élèves qui avaient cette capacité musicale en plus dans ce territoire assez chaotique, assez exubérant de Gombrowicz. Donc voilà, on s'est dit c'est une pièce pour nous et je dois dire que c'était une intuition qui au fond s'est vraiment vérifiée dans le travail parce que on a découvert que la pièce avait vraiment des ressorts extrêmement passionnants qui synthétise beaucoup, beaucoup de choses complexes sur l'identité, sur le devenir, sur la jeunesse, etc. Donc on avait vraiment du grain à moudre, tout ce qu'il fallait. Et il y a un mot de Gombrowicz que j'aime beaucoup, il dit que qu'il aime le ridicule de l'opérette associé au tragique de l'histoire. Et je trouve qu'on a un peu des deux côtés. Il y a de la profondeur dans les questions et en même temps, il est toujours en train de démonter la machine, quoi. Enfin, c'est pas quelqu'un qui déconstruit le théâtre. Il utilise une forme pour la déplacer. En fait, il la tire vers quelque chose d'autre. Et on retrouve la structure et on la déplace en même temps. Donc on a beaucoup de choses qui se diffusent d'un acteur à l'autre. Et une sorte de miroir reflétant comme ça à plein d'endroits, que ce soit avec des acteurs... Voilà, les duos peuvent être avec des acteurs handicapés ou pas. Enfin bref, c'est assez intéressant. Le travail est assez considérable parce que c'est à la fois 26 personnes, c'est un apprentissage musical, c'est du rythme, de la rigueur. Donc on met une pierre de plus chaque jour, enfin peut-être deux des fois. Mais la montagne est importante, ouais.
Et vous parliez du coup d'apprentissage musical. Gombrowicz n'a pas imposé de partition musicale. Du coup, comment vous avez abordé cette partie
Effectivement, il n'y a pas de partition écrite pour cette opérette. Du coup, on a rencontré un compositeur qui s'appelle David Nerman.
Qui
a travaillé avec Rodolphe Burger et comme avec Catalyse et Madeleine, on a déjà travaillé avec Rodolphe Burger. Rodolphe nous a proposé de travailler avec David Nerman, qui lui a composé du coup toutes les mélodies qui sont sur les moments chantés dans la pièce, puisque Gombrowicz écrit juste chanté, mais on n'a pas de mélodie. Donc c'est David Nerman qui a composé toutes les mélodies.
Dans les indications de Gombrowicz, c'est fait référence à l'opérette viennoise. Vous savez, voilà, les crinolines, la valse, etc. Bon, bref. Et on ne voulait pas trop se référer à cette époque-là. Donc, on est plutôt parti dans quelque chose années 70. Voilà, on joue sur plusieurs styles, de toute façon. Et puis, il fallait aussi que ce ne soit pas trop lourd. Il y a une légèreté dans l'opérette. Quelque chose de drôle aussi. Donc, il fallait garder ce petit nerf comme ça et trouver en même temps comment ça correspondait aux capacités musicales des musiciens qui sont diverses. Ils ont tous des histoires assez différentes et puis les instruments aussi assez différents. Donc, il fallait trouver un compositeur qui sache faire l'aller-retour entre le texte et les propositions de Gombrowicz et la situation des acteurs et des musiciens. Pour l'instant, le mariage est fort prometteur.
Mais c'est vrai que, du coup, toutes les musiques sont en live. Enfin, pratiquement toutes. Et c'est les élèves musiciens qui jouent au plateau les compositions.
Tous les deux, vous avez commencé votre collaboration artistique en 2007 avec Alice ou Le Monde des Merveilles. On lit sur les différentes briquettes que, du coup, vous faites la co-mise en scène. Quels sont vos rôles exactement, l'un et l'autre, dans cette création ?
C'est vraiment un regard croisé sur quoi. Donc après on a en général les mêmes visions et les mêmes on se met une fois qu'on est d'accord sur la pièce à monter, on définit des esthétiques et des styles de jeu qui nous intéresseraient d'expérimenter. Donc là en l'occurrence sur Gombrowicz, mais c'est très différent selon les œuvres qu'on choisit. Quand on a travaillé sur Kafka, c'était une autre esthétique qu'on avait définie. Et après, c'est le plateau qui dit. Donc, une fois qu'on a décidé, on a mis en commun notre imaginaire, on dit « Ok, c'est ça qu'on a envie de voir », on va sur le plateau, on voit avec les acteurs ce qui se passe et on partage nos regards là-dessus et on dit « Ah oui, bah là, c'est bon, c'est ce qu'on avait imaginé ou non, c'est pas ce qu'on avait imaginé, donc il faut qu'on mette en branle toutes les grammaires possibles de travail pour amener les acteurs là où on veut les amener, quoi. »
En fait, on est assez complémentaires. Jean-François a une formation d'acteur, mais est un metteur en scène, fait ses propres spectacles aussi sur d'autres thématiques et d'autres sujets. Et moi, j'ai une affection beaucoup pour la dramaturgie. Bien sûr, Jean-François aussi, mais il a un rapport plus direct aux acteurs. Donc voilà, il est souvent sur le plateau, alors que moi, je n'y vais pas. Je suis plutôt en dehors. Enfin, voilà. Donc on est très complémentaires et on réfléchit pas trop, on se pose pas trop de questions sur qu'est-ce que pense machin. Quand on a une question, on se le dit nous-mêmes. Des fois, on sait pas. Enfin voilà. Donc c'est vraiment, c'est très fluide quoi. Et puis ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Donc franchement, moi, j'adore travailler à deux. Franchement, c'est un vrai plaisir.
En plus de ça, vous faites la scénographie. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette scénographie là?
Ah oui, parce que c'est un espace un peu spécial. C'est-à-dire qu'on s'est dit avec Madeleine que jamais on pourrait le faire dans une production normale. Et que là, c'était peut-être l'occasion de le faire sur une production au sein d'une école avec autant d'acteurs, c'est d'avoir un quadrifrontal, c'est-à-dire des spectateurs sur les quatre côtés de la scène. Ce qui marche très bien avec les effets de miroir qui sont à l'intérieur, qui sont inscrits dramaturgiquement dans l'œuvre de Gombrowicz. Et du coup, effectivement, les spectateurs sont sur les quatre côtés et au centre, il y a un espace qui définit une fois la place de l'église, une fois le château de chez Imallet et après le château en ruine de chez Imallet, quoi.
Merci Martin et merci à Jean-François Auguste et Madeleine Loirne.
Je ne m'arrête jamais, j'ai encore trouvé un morceau super approprié, une pépite pour la suite. On écoute tout de suite Carré, parce qu'on parlera de Carré. Carré, vous avez compris ? Du rappeur Attic.
Fais de la place, que j'avance. Regarde la gesture insolente. Hey, tu me dis que c'est l'heure. Montre comment t'as patienté. Je vais appliquer l'as de cœur, histoire de faire les choses carrées. Mais c'est tentant quand tu vois que c'est récent. Dans l'habitude de faire bouger les gens. Ça regarde mal, pas du bâtiment. Mais face à face, appliquer gentiment. C'est mort, ça va venir sucer, c'est obligé. Franchement, c'est fort. En un coup d'accès, je t'ai vu mouiller. Tu me cherches sur une des voies dans le 4-4-2. Tout près de celui à droite qui fume d'abe. Triplex, seul ceinture quand vous l'êtes. Tu peux un geste, on te fera passer aux aveux. Mademoiselle veut sac lancer, elle a des traces de la veille. veut pas passer pour une chienne, mais elle enchaîne les gamelles. Argent facile, c'est carré. Pas de frère docile, c'est carré. On prend racine, c'est carré. Mais tous les jours à la caisse, c'est pas carré. Tu veux de la meuf, c'est carré. Une nouvelle meuf, c'est carré. Un nouveau bif, c'est carré. Quand je rentre dans le ring, c'est carré. Je fais des ronds et c'est carré, je suis payé pour être dans le carré. J'aime pas rouler en plein Paris pour le milli, je suis déjà paré pour la baiser, je suis préparé longtemps que je vends plus des barres. T'es mon public, il est taré, je dis rien. Bella Dami, il va parler pour moi. Au premier tour, je suis déjà le meilleur du tournoi. Eh, laquelle on va serrer tonight. Un qui mange l'oreiller, il fait tout noir. J'ai pas l'ambition de mourir au tchèque. J'veux courir au bled, j'veux une nouvelle caisse, j'veux une nouvelle hôtesse, j'veux une nouvelle test. Là, là, là. Je me contente pas de la petite pièce, ouais, rien qu'on encaisse, moi, demoiselle en gueuse, ouais, rien qu'elle encaisse, elle redescend pas, 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 je veux 200k, ouais, là maintenant, si tu blablates, c'est 250, c'est mieux pour toi que tu payes maintenant, car l'an prochain, ça sera 500, la vie de ma mère, qu'on a rien à voir, la maison offre tout, eux, ils ont rien à boire. Argent facile, c'est carré. Pas de frère docile, c'est carré. On prend racine, c'est carré. Mais tous les jours à la caisse, c'est pas carré. Tu veux de la meuf, c'est carré. Une nouvelle meuf, c'est carré. Un nouveau bif, c'est carré. Quand je rentre dans le ring, c'est carré. Argent facile, c'est carré. Pas de frère docile, c'est carré. On prend racine, c'est carré. Mais tous les jours à la caisse, c'est pas carré. C'est carré. C'est carré. C'est carré.
Ralala, Martin, tu ne te loupes jamais, heureusement qu'on t'a pour la programmation musicale de cette émission. Mais avant de se quitter, on écoute Zoé Manto autour de sa création Carré. C'est pour ça qu'on a écouté Carré avant. Et Martin est allé la voir durant une répétition. On va pouvoir suivre la création jusqu'à son résultat final qui sera joué pour la première fois au festival Entrée dans l'Arène.
Carré, processus de création.
Moi c'est Zoé Manteau, j'ai 20 ans, je suis en L2 lettres modernes et L3 du spectacle et je présente le projet Carré à l'Arène Théâtre.
Peux-tu nous expliquer l'origine du projet Carré ?
L'origine du projet, c'était par des discussions avec des amis sur le charisme. Je ne sais pas pourquoi on parlait de ça. Et je me suis rendu compte qu'on avait tous une notion très très différente de ce que c'était et que ça impliquait vraiment des choses très différentes selon les gens. Et c'était assez particulier parce que pour moi, c'est une notion qui est importante dans le sens où pour s'intégrer dans une société qui est, pour moi en tout cas, relativement basée sur les apparences, il faut ne serait-ce qu'approcher cette notion où la mimer peut-être, je sais pas, et je me suis demandé ce qui pouvait se passer si on n'arrivait jamais à approcher cette notion et si on n'arrivait pas à s'intégrer dans une société comme la nôtre. J'essaie de mettre en scène un personnage qui, dans son espace mental, qui est perdu, qui essaye de lui-même, en fait, qu'ils sont dans la folie parce qu'il n'arrive pas à s'intégrer dans une certaine société. Du coup, il la voit que déformée, que de façon déformée. Et le but de ce personnage, ça va être de comprendre pourquoi déjà il n'arrive pas à s'intégrer. Des autres personnages vont l'approcher et le mettre en quête de ce charisme. Sauf que cette quête, entre guillemets, elle n'est pas concrète, donc elle est pratiquement impossible à approcher. Et ça va être... Enfin, c'est étrange du coup de chercher une notion abstraite et du coup ils vont essayer de la définir et de tenter des choses avec lui, je ne vais pas trop en dire, mais ils vont tenter des choses concrètes pour voir si ça vient au niveau de l'apparence, si ça vient au niveau de l'éducation ou d'autres choses et bon, bah, ils vont tenter des choses quoi.
Lors de la présentation du projet à l'Arène, tu insistais beaucoup sur le fait de ne pas vouloir faire un essai philosophique, de ne pas proposer une forme lourde aux spectateurs qui viendraient voir ton spectacle. Pourquoi avoir pris ce parti de proposer une forme légère et absurde sur cette notion de charisme ?
Parce que c'est une notion qui est tellement abstraite que pour en parler de manière très concrète, il faudrait avoir fait un essai de plusieurs années. Enfin, je pense qu'il faudrait y réfléchir plusieurs années et je sais pas, tenter des choses concrètes, etc. Presque faire de la sociologie, donc bon, c'est pas trop mon but. Et puis, je partais du principe qu'un personnage sans charisme, ça donnait quoi ? Et pour moi, ça donne pas quelque chose de très... Enfin, le but, c'est pas de s'apitoyer sur son sort, c'est de trouver à rire de cette situation et comment nous, dans notre vie, on approche cette notion, on l'approche pas, et à quel moment ressemble plus ou moins à ce personnage et... Bon, bah, tout simplement parce que aussi c'est plus simple pour les gens qui viennent au théâtre aussi dans le but de se divertir. Ils n'ont pas forcément envie de se retrouver coincés dans quelque chose de très sérieux, surtout que ce serait très prétentieux étant donné que c'est la première fois que je fais ça.
Tu cherchais aussi des musiciens et des chanteurs, musiciennes ou chanteuses, dans ton projet. Quel rôle jouera la musique ?
La musique, elle est là pour apporter du rythme, déjà parce qu'on va jouer sur les rythmes et sur les rythmes plus ou moins accélérés, la décélération, l'accélération, etc. J'ai pris un musicien de flûte traversière parce que c'est un instrument qui est assez dissonant au niveau du son, qui n'est pas forcément toujours très agréable. Et le but, c'est de jouer avec les bruitages aussi. Le but, c'est vraiment d'apporter de l'étrangeté sur scène. Et donc, à part ces instruments un peu étranges, peut-être de l'accordéon, si la personne que je vois là-dedans est d'accord, mais des instruments qu'on n'entend pas beaucoup, et essayer de créer des sons un peu particuliers, une ambiance, une cohérence particulière sur scène pour qu'on comprenne que vraiment, c'est pas le monde dans lequel on évolue, nous. C'est un monde volontairement très théâtral et qui se revendique comme étant du théâtre, et le but c'est pas d'y voir et d'interpréter comme un essai sur la société, mais plutôt d'y voir un espace mental représenté dans sa folie et sa complexité.
En plus de la musique, est-ce que tu as déjà des idées d'éléments de scénographie ?
Le but c'est de créer, la pièce s'appelle Carré, le but c'est de créer un carré sur scène de lumière qui délimitera un peu, assez large, qui délimitera l'espace où les comédiens vont évoluer en tant que personnages. Et peut-être que sur les côtés on gardera les musiciens à vue, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Mais le but, ce serait de jouer sur la symbolique des couleurs et de les faire évoluer en fonction de la pièce, mais de rester dans quelque chose de très très sobre, parce qu'on est dans un espace mental, je ne me vois pas mettre des meubles. Puis le but, c'est qu'il y ait beaucoup de rythme sur scène, donc il faut aussi qu'il y ait beaucoup de passages et qu'il n'y ait pas d'objets qui encombrent le passage des comédiens, etc. J'avais pensé aussi à peut-être délimiter avec un ring de boxe ou faire un carré par terre, enfin quelque chose en tout cas, et ça reste à réfléchir.
Tu as écrit un texte, tu pars donc du texte que tu as écrit, mais on remarque également dans la présentation que tu as faite à la Reine que le collectif est important pour toi. Quelle sera la marge de manœuvre du coup des comédiens et des comédiennes par rapport au texte ?
Pour moi, le texte, c'est un support, mais déjà, il n'est pas complètement abouti, il peut toujours être modifié. Enfin, le but, c'est de discuter avec les gens qui mettent en scène avec moi et les comédiens. La moitié du spectacle, effectivement, elle est liée à ce texte à interpréter, etc. Et 50%, ce qu'ils vont proposer, donc beaucoup dans le corps, la relation entre le corps et la musique, trouver des moments comme ça, chorégraphiés peut-être, plus ou moins, histoire de créer une cohérence aussi entre tout ça et pas juste avoir un bloc de texte mis en scène et puis plus rien. Enfin, le but, c'est vraiment d'avoir de la cohérence et puis de permettre, du fait que c'est un espace mental, de permettre aussi des images sur scène moins... mimétique, pas forcément parler, mais qui passerait dans le corps et qui aurait un sens par rapport à ça.
Bon, le problème n'est pas du côté maternel. Avez-vous connu votre père ?
Peu.
Oh, on tient quelque chose là ? Et cela a-t-il créé un manque ?
Je ne crois pas, non.
Ah, aussi le bon chemin !
Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Nous devrions faire un jeu de rôle.
Excusez-moi.
Je vais regarder votre père et vous allez me dire ce que vous ressentez.
Et moi, et moi je lui fais la maman.
Je crois pas que ce soit nécessaire.
Je lui crois alors.
Vous avez qu'à choisir la situation.
Je ne suis vraiment pas sûr que...
À la plage.
Alors fiston, comment ça va?
Ouh, super subtil, hein.
Il fait chaud. Je crois, je transpire, je crois, et je vois tous ces gens nus et bedonnants, ça ne me séduit pas tellement.
Mais non, mais par rapport à moi, comment vous vous sentez par rapport à moi, votre père ?
Papa, je trouve ton site de bain vraiment à vomir.
C'est tout.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Si ce n'est pas mon père que je regarde là, et vous jouez si mal, je ne suis vraiment pas dedans.
Ah bah, ça c'est évident. Hein. Et
comme tout le monde, infidèle, mal baisé, un peu guindé.
Vous ne l'aimez pas beaucoup.
C'était un vrai con.
Il vous a fait du mal?
Non, il ne m'a rien fait.
Vous avez donc souffert de la distance?
Ah non, je préférais qu'il ne me fasse rien, je vous assure.
C'est peut-être pas son père le problème.
En termes d'amour, en dehors de ma maman, je ne crois pas que qui que ce soit m'ait déjà aimé.
Putain, mais votre vie est un trou béant de merde! Avez-vous au moins fait l'amour une fois?
Parce que faire l'amour est une injonction.
C'est vrai ça? Qu'est-ce que faire l'amour après tout? Hein, dites-le nous, vous, avec vos idées là préconçues, on est perdu?
Du calme, les saintes n'y touchent. Au lieu de chipoter sur ce qu'est la définition du rapport sexuel, monsieur...
Ordu.
Ouais, voilà, c'est ça, tout pareil. Pouvez-vous nous dire si vous avez déjà visé, quoique ça implique dans votre définition?
Et avec le consentement.
Eh bien, comment dire... j'ai déjà eu ma verge complètement dressée et prête à rentrer par la porte du bas si cela est votre question.
La vulgarité n'était pas nécessaire.
Un homme, une femme, une balle, autre chose.
Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je croyais que nous étions ici en quête du charisme qui devrait m'appartenir.
Simple habitude, certes, mais mon vieux, il faut ouvrir les portes et les défoncer au marteau, à la hache, à la tronçonneuse, comme ça, là, et... C'est une impasse, encore une fois. Bon, encore, il n'y a pas de frustration sexuelle qui fait de vous cette espèce d'abruti silencieux et béat qui transpire la bêtise et la crasse. Non, c'est autre chose.
Pardon?
C'est pas votre queue le problème, c'est autre chose.
T'as procédé à différentes auditions pour choisir ton équipe, pour créer ton équipe de comédiennes et de comédiens. Quelles étaient tes attentes pendant ces auditions?
Il y a différentes choses que je leur ai proposées. D'abord une improvisation corporelle, après des choses plus parlées, plus classiques, entre guillemets. Et à la fin, la mise en scène d'un texte. Et je voulais voir s'ils allaient... Parce qu'en plus, je les ai eu en entretien individuel, donc je leur ai expliqué un peu aussi le but, l'intention du texte, etc., ce que je recherchais. Je voulais voir s'ils allaient chercher un peu plus loin que les carcans sur lesquels on se cache en improvisation, c'est-à-dire les... Moi, je le fais, en tout cas, des fois, on se cache un peu derrière certains clichés ou des choses faciles qui vont faire rire facilement. Et je voulais voir s'il y en a qui allaient un peu plus loin et qui essayaient de proposer des choses qui allaient un peu plus dans l'étrange, dans l'étrange, qui se mettaient un peu plus en danger là-dessus. Et même au niveau du corps, pendant l'improvisation corporelle, qui... Il y a des gens qui étaient plus ou moins à l'aise en danse, évidemment, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas à l'aise et qui ont quand même proposé quelque chose qui n'était pas du mimétisme par rapport à ce que je leur, enfin, à la façon dont je les guidais. Du coup, c'est surtout l'idée de se mettre, qu'ils se sont mis en danger ou qu'ils ont proposé quelque chose que je ne m'attendais pas forcément à voir. Du coup, c'est surtout l'effet de surprise.
Vous atterrissez sur la Lune et vous découvrez que votre corps flotte. Et c'est incroyable parce que, évidemment, ça vous intrigue. Il flotte dans l'atmosphère. Et vous, vous n'avez jamais vu ça. Vous vous dites, mais comment je vais faire pour revenir vers moi et pour marcher normalement parce que vous flottez complètement et vous n'êtes plus maître de vous-même.
Thank you. chercher à toucher, à sentir de toutes vos sensations ce paysage.
C'était Carré, processus de création. Merci Zoé d'avoir accepté de répondre à mes questions. On retrouvera Carré du 24 mars au 3 avril 2021 pour le festival Entrée dans l'Arène de l'Arène Théâtre. D'ici là, on reviendra voir comment les choses avancent.
Enfin Brecht, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, avec une grande surprise, on sera en compagnie des nombreux artistes, de nombreux artistes qui auraient dû jouer au festival du TNB. D'ici là, portez-vous bien.
Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine !
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabes.